Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 8h à Tel Aviv, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Avec Andréane Ménard. Bonjour Andréane.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Votre journal avec d'abord Israël, plus précisément sa frontière nord avec le Liban, théâtre d'affrontement depuis près d'un an.
Et nous irons dès le début de ce journal à la rencontre des habitants de la ville israélienne de Kiryat Shmona, la plus proche des positions du Hezbollah. Benjamin Netanyahou a annoncé que le retour des habitants du nord d'Israël qui ont fui les échanges de tirs à la frontière était l'un des objectifs de la guerre en cours. Aux États-Unis, la campagne se poursuit avant la présidentielle de novembre. Hier, le vote par correspondance a débuté en Pennsylvanie. À la une, également les déclarations d'Antonio Guterres à l'agence France Presse. Le manque de fonds pour la mission multinationale en Haïti est absolument inacceptable, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Et puis Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères en France, choisi par Emmanuel Macron pour remplacer Thierry Breton comme futur commissaire européen.
Les Israéliens qui ont fui les échanges de tirs avec le Liban voisin doivent pouvoir retourner chez eux en toute sécurité.
Benjamin Netanyahou l'a affirmé hier. Le cabinet politique et de sécurité a mis à jour les buts de la guerre hier soir et celui-ci en fait partie. Depuis le 7 octobre, l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien et l'opération militaire meurtrière de l'État hébreu qui a suivi les échanges de tirs sont quotidiens entre Israël et le Hezbollah libanais, un soutien du Hamas. Selon un décompte de l'agence France Presse, ces violences transfrontalières ont fait 623 morts au Liban, dont 141 civils côté israélien, y compris sur le plateau du Golan annexé. Les autorités annoncent 24 soldats tués et 26 civils. Une région frontalière où la tension est très forte. Les habitants, pour beaucoup déplacés, ont vu leur quotidien bouleversé par la guerre. Ils attendent une décision du gouvernement israélien. Fanny Léonore Crouzé s'est rendue à Kiryat Shmona, l'une des villes israéliennes les plus proches des positions du Hezbollah. Reportage.
Au milieu des rues désertes, des feux de circulation à l'arrêt, difficile de manquer Rami au volant de sa voiturette de golf. Il rentre des courses. À l'extérieur, deux détonations se font entendre.
C'est comme ça toute la journée. Il tire pendant une heure, puis il se repose. Il tire encore, et il se repose.
C'est la voix de Shmuel, le fils de Rami. Pour lui, une seule solution peut mettre fin à ces échanges de roquettes dans la région.
Il faut attaquer par la terre, il faut entrer au Liban et tuer tous les grands commandants du Hezbollah.
Une situation devenue insupportable pour les habitants. À Manahaim, à quelques kilomètres de Kiryat Shmona, les citoyens israéliens s'allient face aux agressions du Hezbollah. Nissan Zivi a cofondé le collectif citoyen 17-0.
Notre objectif principal, c'est de changer la situation sécuritaire ici, dans le nord et à la frontière, de faire pression sur le gouvernement, sur la communauté internationale, qui nous ont promis une zone démilitarisée.
Sans prise de décision du gouvernement ou des acteurs internationaux, nous dit Nissan Zivi, il prendra les armes. Fanny Léonore Crouzé, de retour de Kiryat Shmona. RFI.
La possibilité d'une solution diplomatique s'éloigne pour faire cesser les échanges de tirs quotidiens à cette frontière. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre israélien de la Défense. Quant à Yahya Sinwar, le chef du Hamas, il a affirmé que son mouvement était préparé à une longue guerre d'usure. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra cette semaine en Égypte pour rencontrer les médiateurs égyptiens et qatariens engagés dans les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pour l'heure, celle-ci semble au point mort. Toute la journée d'hier, de nouvelles frappes israéliennes ont été menées dans la bande de Gaza. Une vingtaine de morts ont été comptabilisées selon des médecins et des secouristes.
Aux États-Unis, Donald Trump repart en campagne aujourd'hui.
Malgré la nouvelle tentative d'assassinat qu'il a visée dimanche dernier, chaque jour compte pour l'ex-président américain qui sera ce mardi dans le Michigan. Donald Trump, candidat républicain à ce scrutin, qui n'a pas manqué d'utiliser cette tentative d'assassinat pour égratigner au passage ses adversaires pour lui. Le suspect arrêté ce dimanche adhérait au discours de Biden et Harris et a agi en conséquence. Fin de citation. L'homme en question a été présenté à un juge hier. Sa comparution se tiendra le 23 septembre prochain.
La présidentielle américaine, ce sera le 5 novembre.
Et avant cela, l'heure pour l'instant est au vote anticipé destiné donc aux électeurs qui se savent déjà dans l'incapacité de se rendre physiquement aux urnes à la date prévue à cet effet. Hier, c'est en Pennsylvanie que la procédure procédure a commencé, un état clé pour le scrutin qui peut faire littéralement basculer le résultat. Et Kamala Harris, la candidate démocrate, en a bien conscience. Écoutez à ce propos Agnès Trouillet, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Pennsylvanie.
Kamala Harris essaye d'aller courtiser cet électorat ouvrier, industriel, qui a été traditionnellement démocrate, mais qui en 2016 a voté pour Donald Trump avec une faible marge, mais quand même. Biden a réussi à récupérer cet électorat en 2020, mais c'est un électorat qui compte puisqu'il va falloir à la fois promettre des emplois et donc ne pas interdire la fracturation hydraulique, donc l'extraction du gaz de schiste, et puis à la fois séduire les électeurs qui attendent donc une énergie plus verte, hein, les électeurs qui se trouvent dans les zones plus progressistes de Pennsylvanie que sont Pittsburgh et Pennsylvania, les deux grandes métropoles de l'ouest et de l'est de l'État, qui, entre les deux, une très grande étendue conservatrice, finalement.
Des propos recueillis par Marine Le Beg.
Inacceptable, c'est le mot employé par le secrétaire général de l'ONU.
Antonio Guterres, dans un entretien avec nos confrères de l'agence France Presse, il s'en est pris ainsi au manque de contributions pour financer la mission multinationale en Haïti, menée par le Kenya, pour aider la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs armés qui règnent sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En effet, à ce jour, seuls 6 pays ont contribué financièrement à cette mission. À New York, Karine Auton.
La contribution du Canada s'élève à 45 millions de dollars en liquide pour la MMAS en Haïti, celle des États-Unis à 15, de la France ou de l'Espagne à 3, l'Italie a versé 360 000 dollars et la Turquie 50 000. D'autres aides en matériel ou en formation ont été aussi fournies, mais avec uniquement 68 millions de dollars, il sera impossible de financer la force correctement. Dans un entretien exclusif à l'agence France Presse, le patron de l'ONU a trouvé cela totalement inacceptable, Antonio Guterres.
Whenever there is a war, money is always available.
Quand il y a une guerre, on trouve toujours de l'argent. Quand il y a une crise financière et que des banques doivent être sauvées, on trouve toujours de l'argent. Quand un peuple souffre dans une situation si désespérée et qu'on n'a besoin que d'une somme relativement faible d'argent pour mettre en place une petite force en Haïti, il est totalement inacceptable que cet argent ne soit pas disponible.
Le mandat de la MMAS doit être renouvelé pour un an avant la fin du mois et les États-Unis estiment que dans ces conditions, seul un financement dans le cadre onusien serait pérenne. C'est l'une des raisons qui les pousse à demander au Conseil de sécurité de réfléchir à transformer la MMAS en opération de la paix sous l'égide de l'ONU. Karine Auton, New York, RFI.
Haïti, États-Unis ou encore Brésil, où se trouvent des afro-descendants potentiellement concernés par un projet de loi promulgué récemment au Bénin. Le texte éclaire les personnes ayant un ascendant africain déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire peuvent demander à être naturalisés béninois. Le détail avec Jean-Luc Aplogan.
Le demandeur doit adresser sa demande au ministre de la Justice et doit remplir les critères suivants: avoir 18 ans révolus, apporter la preuve de son afro-descendant par témoignage authentifié, document d'état civil ou test ADN réalisé dans un laboratoire agréé par le Bénin. Pour celui qui n'a pas formulé sa demande à partir du territoire béninois, la nationalité lui est accordée à titre provisoire pour 3 ans. L'obtention de l'attestation définitive exige un séjour au Bénin pendant la validité du document provisoire. La nationalité donne la liberté d'entrée, de séjour et de sortie du territoire et le droit à un passeport. Le gouvernement béninois, lors de l'introduction du projet de loi au Parlement en mai dernier, soulignait que la traite des Noirs avait laissé des blessures profondes sur l'Afrique et les descendants des personnes déportées, qu'il veut aider aujourd'hui à renouer avec leurs origines. Plusieurs afro-descendants privilégient davantage la destination Bénin depuis que Patrice Talon fait du tourisme mémoriel de ce passé un des piliers de son programme. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au moins 18 morts, le bilan alourdi de la tempête Boris qui ravage l'Europe centrale et orientale, des décès comptabilisés principalement en Roumanie, mais aussi en Autriche, en Pologne et en République tchèque. Et à ce bilan humain s'ajoutent les milliers de déplacés et les territoires ravagés en raison des pluies incessantes et d'une forte montée des eaux, avec des conséquences, bien évidemment. Des centaines de milliers de foyers sont encore privés d'électricité ou sans eau, des routes coupées et des transports interrompus. À ce stade, la situation météorologique semble quelque peu s'améliorer dans la région, même si les sols restent saturés. saturés et les inondations continuent.
Une situation suivie bien sûr de très près à Bruxelles par les instances de l'Union européenne.
L'Union européenne où la présidente de la Commission doit s'exprimer ce mardi à Strasbourg. Elle devait notamment dévoiler son équipe aujourd'hui, Ursula von der Leyen, au président du Parlement ainsi qu'aux différents groupes des partis politiques. Mais finalement, ce pourrait être un peu plus tard, la faute notamment à des changements de dernière minute, mais aussi à l'annonce hier de la démission du commissaire français Thierry Breton. Pour le remplacer, Emmanuel Macron a proposé le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, un très proche du président français et fin connaisseur des arcanes de Bruxelles. Anastasia Becchio.
Élu député européen en 2019, Stéphane Séjourné a d'abord présidé la délégation française du parti présidentiel avant de prendre la tête du groupe centriste Renew. À l'époque, ce troisième groupe de l'hémicycle européen a pu faire pencher la balance au moment des votes, les conservateurs et les sociodémocrates n'ayant pas à eux deux la majorité. Dans cette arène où il est beaucoup question de compromis, Stéphane Séjourné a pu exercer ses talents de stratège. Mais il est aussi une figure discrète, sans poids politique, peu connue pour sa maîtrise des sujets économiques, pourtant nécessaire à un poste où il devra défendre la compétitivité européenne. Thierry Chopin, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors.
Il est vrai que Thierry Breton avait incarné en fait très fortement ces enjeux de politique industrielle, de souveraineté technologique. Ce sont des sujets qui sont au cœur de l'agenda qui est porté traditionnellement par la France, en tout cas depuis 2017, agenda qui a été très fortement renforcé après la crise sanitaire, sous l'effet également de la crise énergétique, mais aussi de la guerre en Ukraine. La question évidemment est de savoir dans quelle mesure Stéphane Séjourné, qui encore une fois a une expérience européenne réelle, mais sera à l'aise en fait dans un poste tel que celui-là, et ça, seul l'avenir le dira.
L'Élysée précise que la France vise un portefeuille élargi centré sur les enjeux de souveraineté industrielle, technologique et de compétitivité européenne.
Anastasia Becchio, en France, on attend aussi toujours l'annonce du gouvernement de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre choisi par Emmanuel Macron. Hier après-midi, le locataire de Matignon a reçu à nouveau les membres de sa famille politique, les dirigeants du parti de droite, les Républicains, mais également son prédécesseur, Gabriel Attal. L'actualité de ce mardi, c'est aussi les États-Unis et l'arrestation cette nuit du rappeur américain P. Diddy. Sean Diddy Combs, de son vrai nom, a été interpellé à Manhattan après le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, notamment pour des faits d'agression sexuelle. P. Diddy, Puff Daddy. L'artiste a eu de multiples surnoms tout au long de sa longue carrière, lors de laquelle il s'est imposé dans le milieu du hip-hop, que ce soit en tant qu'interprète ou producteur, notamment de Notorious B.I.G. ou Mary J. Blige, pour ne citer que.
De la musique pour finir et un retour.
Celui de Thomas Dutronc qui revient dans les bacs avec un nouveau disque imprégné de jazz manouche. Ce nouvel album s'appelle Il n'est jamais trop tard et Edmond Sadaka l'a écouté pour nous.
Il n'est jamais trop tard pour pardonner, se dire je t'aime.
C'est le premier album de chansons inédites de Thomas Dutronc depuis presque 10 ans. Il est vrai qu'entre-temps, il a multiplié les projets. Son disque Frenchy, composé de reprises de standards français, avait cartonné en 2020, tout comme la tournée Dutronc et Dutronc, première vraie collaboration avec son père, Jacques Dutronc. Cette fois, il s'agit donc de chansons nouvelles. Il y est question d'amitié, de chaleur humaine, de don de soi, des titres écrits pour la plupart avec son vieil ami David Chiron. Thomas Dutronc.
Il m'a composé des très belles chansons depuis le début de ma carrière, parce que sur mon premier disque, il avait fait une chanson qui s'appelait Solitaire. Et là, on a fait quasiment tout ensemble, en fait. C'est très guitare, c'est très... Il y a un petit côté gitan.
Grand admirateur de Django Reinhardt, Thomas Dutronc a fait appel à des musiciens manouches renommés tels que Stokelo Rosenberg et Rocky Gresset pour enrichir ses mélodies.
Lune en mercure, scorpion en lion, ils disent que ton amour est pur, que moi je suis en dépression, que je n'ai plus le sens de la mesure.
Edmond Sadaka et Thomas Dutronc, son nouvel album, c'est notre choix musical du jour. Rendez-vous juste avant 10h.
Merci Andréane Mellard, 7h14 à Paris. RFI Matin, dans les prochaines minutes à la une en Asie, la Russie freine les arrivées de travailleurs venus d'Asie centrale. Les contrôles à la frontière sont renforcés, le Tadjikistan notamment s'en inquiète. Notre tour d'horizon des journaux français, reportage aussi en France avec deux adeptes de la van life, la vie en camion aménagé ou en camping-car si vous préférez. C'est une nouvelle tendance du moment. Mais d'abord, ma petite humeur européenne du mardi. Il y a une bonne ambiance à Bruxelles en ce moment. C'est avec la complicité de Jean-Pierre Pellon.
Thierry Breton démissionne. Le commissaire européen au marché intérieur se dit désavoué par Ursula von der Leyen. Un véritable coup de théâtre.
Oubliez tout ce que vous pensiez de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles. C'est barbant, technocratique, chiant comme la pluie. Mais non, pas du tout.
La présidente de la Commission a réussi à avoir la tête du français.
Ce coup-ci, c'est divertissant. C'est House of Cards, les feux de l'amour et Papa Schultz en même temps.
Ah, colossal finesse !
Ceux qui n'avaient pas suivi le feuilleton découvrent un bras de fer au sommet de l'Europe entre l'allemande et le français, des coups tordus et des savonnages de planches.
C'est une colossale conspiration !
La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, et le commissaire français Thierry Breton ne s'entendaient pas du tout.
On sait que les relations entre Thierry Breton et la présidente allemande sont notoirement mauvaises. Il y a eu plusieurs clashs tout à fait publics. Elle a dit « Je ne veux pas de Thierry Breton ».
Salopelle ! Je me vengerai !
Alors Thierry Breton claque la porte et règle ses comptes dans une lettre.
Il accuse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'être à l'origine de sa démission et a qualifié sa gouvernance de douteuse.
C'est une menteuse ! Elle ment en allemand !
Sous le choc, la France pleure le départ de Super Breton.
C'est un immense gâchis, une immense perte.
Thierry Breton était indiscutablement et de très loin le meilleur des commissaires européens.
Même si c'était une tête de cochon, il faisait avancer les choses.
Dans cette affaire, les commentateurs français hésitent. Faut-il blâmer la vilaine von der Leyen qui a réclamé la tête de Breton ou le faible président Macron qui lui a offert sur un plateau ?
Madame est servie.
Et pour finir l'épisode du jour, on assiste en prime à une opération de recasage, comme on les aime, du recyclage classique pour prendre le fauteuil de Thierry Breton.
À sa place, Emmanuel Macron a choisi un proche, Stéphane Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères.
Un macroniste pur beurre.
Merci, chef. Ça serait bien au chaud.
À Bruxelles, il est 7h17.
Il est temps qu'Ursula reprenne les choses dans ses tentacules.
À la une en Asie aujourd'hui autour des relations entre la Russie et le Tadjikistan, République d'Asie centrale. On est avec Régis Janté qui suit l'actualité de l'Asie centrale pour RFI. Bonjour Régis.
Bonjour à vous.
Il y a une semaine, l'ambassade du Tadjikistan à Moscou a recommandé à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Russie. Elle évoque des mesures de sécurité et un renforcement des contrôles à la frontière. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de Tadjiks qui travaillent en Russie. Pourquoi ces restrictions ont-elles été décidées? Restrictions donc à l'entrée des Tadjiks en Russie?
En fait, ça dure depuis un petit moment et là, c'est à cause de l'attentat de la salle de spectacle du Crocus dans la banlieue de Moscou. C'était en mars dernier, un attentat à l'arme automatique qui a causé la mort de 145 personnes, conduit par 4 citoyens tadjiks, attentat qui sera revendiqué par l'État islamique Daesh. D'autres attentats et faits terroristes se sont produits en Russie, impliquant des personnes originaires du Tadjikistan et d'autres républiques d'Asie centrale, comme ce 23 août, par exemple, avec une prise d'otage dans une prison de Volgograd. Il y a donc une demande à l'intérieur de la Russie pour renforcer le contrôle des migrants du travail venus d'Asie centrale. Ils sont probablement entre 3 et 5 millions de Tadjiks, Ouzbeks ou Kirghizes à travailler en Russie.
Oui, Régis, tout de même, ça arrive à un moment où l'économie russe a vraiment besoin de cette main-d'œuvre immigrée.
Exactement, comme rarement d'ailleurs. C'est lié à la situation créée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, entre turbulence du rouble qui rend la Russie moins attractive pour les migrants centra-asiatiques et exode massif des Russes depuis février 2022. Donc d'un côté, il y a en Russie un fort besoin de main-d'œuvre émigrée, comme vous le soulignez, et de l'autre, une certaine demande populaire et une surenchère assez populiste de certaines forces politiques nationalistes qui capitalisent sur les sentiments anti-migrants d'Asie centrale. Même s'il y a une part d'hypocrisie, l'immigration illégale étant apparemment très importante en Russie, sur fond de corruption dans les rangs des gardes frontières, de la police, etc. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il faut sous-estimer le danger sécuritaire que représentent certains groupes instrumentalisés par le prétendu État islamique.
Oui. Est-ce que ce renforcement des contrôles aux frontières de la Russie peut avoir des conséquences importantes, des conséquences lourdes pour l'économie du Tadjikistan ?
Oui, parce que en fait, à chacun de mes voyages au Tadjikistan ces 20 dernières années, je n'ai guère rencontré de famille dans les villages ou les villes de la vallée du Fergana, au pied des montagnes du Pamir ou dans les régions proches de l'Afghanistan, dont au moins un des membres était envoyé en Russie pour faire vivre la famille. On manque de données précises à ce jour, mais il faut savoir que ces dernières années, les remises d'argent des migrants du travail, donc les sommes envoyées de Russie vers le Tadjikistan, représentaient une part substantielle de ce pays pauvre, lequel a pu redépendre jusqu'autour de 50% de celui-ci dans son PIB.
Merci à vous, Régis Janté, correspondant de RFI pour l'Asie centrale. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour À la Une en Asie. Une chronique que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet et l'application RFI Pure Radio. Il est 7h20 à Paris.
RFI Matin.
Notre coup d'œil au titre de la presse française de ce mardi 17 septembre 2024 et à la une de nombreux quotidiens ce matin. L'Europe, le clash breton qui fragilise la France, titre l'Opinion. Il est question donc du départ fracassant du français Thierry Breton de la Commission européenne. L'affaire éclabousse à la fois Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Emmanuel Macron, le président français. C'est ce qu'assure le quotidien libéral. Sous la pression de Bruxelles, Macron lâche Thierry Breton, résume pour sa part Le Figaro. La volte-face du président envers le commissaire français serait le fruit d'un marchandage avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Écrit le journal, Ursula von der Leyen qui a contraint la France à lâcher Breton. Ça veut dire que la France est traitée comme un petit pays aux ordres de Bruxelles, s'inquiète dans Le Figaro, l'éditorialiste du jour, Philippe Gély. Mais qui a tué Thierry Breton demande pour sa part Libération, qui explique qu'en réalité son sort était scellé depuis déjà une dizaine de jours, par le président français et par la présidente de la Commission. C'est une partie de poker peu glorieuse qui illustre la faiblesse du président français, écrit encore Libé. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen offrent à l'Europe une piètre pièce de boulevard dont ni la France ni l'Union européenne ne sortiront grandis. Et face à Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron a donc cédé et pour placer un de ses proches, Stéphane Séjourné, ce qui provoque le titre de une de Libé. Ursula, j'ai un copain à recaser. À la une de La Croix, enquêté après les naufrages de migrants, alors que 46 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche depuis le début de l'année, la police et la justice multiplient les enquêtes qui visent des filières extrêmement structurées quand la justice traque les passeurs. C'est dans le quotidien catholique ce matin. Et puis le Parisien s'intéresse au business des cigarettes à l'unité, ces boutiques qui vendent en toute illégalité des cigarettes une par une aux fumeurs occasionnels qui ne peuvent pas s'acheter un paquet en entier. Sous prétexte de dépannage, les bénéfices peuvent atteindre des milliers d'euros par an et de l'argent qui n'est pas déclaré. Les revues de presse à suivre ce matin avec Frédéric Couteau. On appelle ça la van life, autrement dit la vie en camping-car. C'est devenu une tendance en France, un mode de vie que l'on affiche sur les réseaux sociaux. Les comptes Instagram se multiplient, on voit des familles, des couples, des personnes seules qui racontent leur voyage dans des camions plus ou moins bien aménagés. La van life, c'est un mode de vie qui se veut alternatif, moins cher, plus libre. Eva Kling est allée à la rencontre de Margot et Emeric, deux jeunes habitants du centre de la France. On visite avec eux leur nouvelle maison sur roues.
Barnabé, c'est le petit nom de ce camping-car vintage. Margot et Emeric l'ont acheté cette année et depuis, ils passent leur week-end à l'aménager.
Ici se situe la cuisine. Donc on a changé pas mal de choses. On a repensé le plan de travail, on a tout repeint. Puis là, t'as les petits placards. Et là, du coup, c'est un régulateur de charge parce qu'Emeric a installé deux panneaux solaires.
Je pense que ça va suffire parce qu'en fait, le camping-car, il va pas user tant d'électricité parce que la batterie vraiment du camping-car, c'est juste pour l'éclairage, la pompe à eau. Après, on a une batterie à part pour recharger les téléphones, appareils photo et tout ça.
Ensuite, tu as la salle de bain. On a tout enlevé. Avant, ça te faisait des grands placards en plastique avec toilettes chimiques. Donc maintenant, on a des toilettes sèches. On a des cuves d'eau. Il me semble que c'est 100 litres.
Et donc ça vous tient combien de temps, 100 litres?
Bah, on ne sait pas encore. Ce sera des toilettes de chat pour garder l'eau au maximum. Ouais, maintenant, il faut le dévisser.
On a tout fait nous-mêmes.
Avant de partir, il reste pas grand-chose. Des petites étagères à placer.
Le klaxon ne marche plus.
Barnabé est un peu timide.
Un peu partout sur les placards et les portes, des photos et des affiches sont déjà collées.
Au-dessus du siège conducteur et passager, on a mis du liège et on a accroché plein de photos. Il manque encore des photos, mais il va y avoir des photos des copains et de la famille pour qu'ils soient un peu avec nous, entre guillemets. Puis à un moment donné, on a un gros manque. Bah, on revient en fait.
C'est ça qui est pratique. Hein. Si t'en as marre, bah tu rentres.
Voilà. Forcément, les premiers mois, ça va peut-être être un peu compliqué.
Non, mes parents, ils ont eu peur un peu.
Il revient vraiment dans notre, dans notre famille, c'est est-ce que vous allez trouver du travail, quoi.
C'est vraiment l'argent.
Ouais.
Il y a un gros réseau de saisonniers. Tu te mets sur une page Facebook et franchement, t'as des annonces tous les jours. Après, c'est pas des carrières, quoi. C'est du petit taf saisonnier sur 2-3 semaines.
Ça nous inquiète vraiment pas du tout.
Moi, c'était un projet en fond, quoi. Je m'étais dit, si je peux le faire, je le fais. Mais je pense que ce qui a déclenché aussi, c'est des galères de fin de mois.
Ouais.
C'est toi, ton taf, qui se passait mal.
Le stress du travail, c'est vrai que là, il y en aura beaucoup moins, quoi. C'est 2 semaines et puis après c'est fini et on passe à autre chose et hop. Donc en fait tu te tracasses un peu moins, j'ai besoin de ça. Un gros plaisir pour nous c'est de plus avoir de boîte aux lettres.
Presque, celle-ci est en métal blanc, remplie de post-it.
Les petits mots des copains.
C'est qui a écrit ça? Gros bisous les amis, merci encore pour ce week-end de folie.
Je suis droit?
Non, redresse-la un peu, remonte, attends, descends. Ma foi.
Il n'y aura pas de facture dedans. Quand on revient, on a le projet d'acheter une maison sympa, de faire des travaux dans la maison.
Bien voyager avant de se poser, quoi.
On n'a rien qui nous empêche de le faire à l'heure actuelle. Donc bien profiter, puis quand on revient, on...
Profiter autrement.
Profiter autrement.
Le camion est parti. Bonne route. Eva Kling pour ce reportage sur la van life. Il est 7h26 à Paris. C'est l'heure de la musique et du coup de cœur du jour des programmateurs de RFI. Aujourd'hui, nous sommes avec Adi Oasis. Elle a grandi près de Paris au sein d'une famille martiniquaise. Elle est bassiste, chanteuse et productrice. Voici le titre Sidonie sur RFI. Denis en playlist RFI ce mois-ci, extrait de l'album Lotus Glow de Adi Oasis. Vous restez avec nous sur la radio du monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Émotion, souffle, mouvement, les super pouvoirs de la respiration.
Demain.
La peur du jugement, s'en défaire et retrouver confiance en soi.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les couleurs du son et RFI Talent présente Naïssem Jalal en concert gratuit. Retrouvez la flûtiste-vocaliste franco-syrienne en duo avec la violoncelliste Lina Belaïd dans le cadre du festival Si rien n'est fait à Paris le 20 septembre à 21h. Plus d'infos sur lesarchescitoyennes.fr.